Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le biogaz manuel pratique » de Jean-Philippe Valla est un guide technique consacré à la production et aux usages du biogaz issu de la méthanisation de matières organiques. Publié aux éditions de Terran en 2016, cet ouvrage de 136 pages s'inscrit dans le champ de l'autoconstruction, de l'énergie renouvelable et de l'autonomie à l'échelle d'une exploitation disposant de ressources organiques régulières. L'auteur, ingénieur de formation et exploitant agricole, s'appuie sur son expérience pour présenter les conditions concrètes de mise en place d'une installation. Le livre ne se limite pas à définir le procédé biologique, il relie le choix des intrants, le dimensionnement des équipements, la production du gaz et ses débouchés pratiques. Photos et schémas accompagnent les explications afin de rendre visibles les dispositifs évoqués. Sa perspective est principalement agricole, ce qui constitue à la fois sa force documentaire et une limite pour les lecteurs recherchant une solution domestique de très petite taille. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la méthanisation envisagée comme valorisation organisée des matières organiques. Le point de départ du manuel est simple, des matières organiques, souvent considérées comme des déchets, peuvent devenir une ressource énergétique lorsqu'elles sont traitées dans un dispositif de méthanisation, fumier, lisier, résidus végétaux ou certains déchets organiques constituent des apports possibles, sous réserve d'une disponibilité suffisamment régulière. Cette condition est déterminante, car une installation de biogaz ne fonctionne pas comme un système alimenté, occasionnellement par des surplus aléatoires. Elle suppose une continuité d'approvisionnement et une gestion concrète des flux de matière. Le livre place ainsi la question énergétique dans le cadre plus large de l'exploitation agricole. Les effluents et résidus y sont liés à des activités déjà existantes, ce qui peut réduire le besoin d'acheter une matière première extérieure. Cette approche évite de présenter le biogaz comme une énergie abstraite ou miraculeuse. Sa pertinence dépend de la nature des matières disponibles, de leur quantité, de l'espace mobilisable et de la capacité à exploiter le gaz produit. En traitant la méthanisation comme une filière de valorisation, Valla relie donc la gestion des déchets, l'énergie et l'organisation matérielle du site. Le lecteur est conduit à évaluer d'abord ses ressources réelles avant de s'intéresser aux équipements. Deuxièmement, l'autoconstruction à moindre coût, mais fondée sur des préconditions matérielles précises. L'orientation pratique du livre tient à son ambition d'aider le lecteur à construire lui-même une installation de biogaz. Cette promesse de coût maîtrisé ne signifie toutefois pas qu'une installation puisse être improvisée. Les sources disponibles soulignent deux prérequis explicitement mis en avant, un apport régulier de matière organique et un minimum de surface. Ces éléments structurent la faisabilité avant même le choix d'un digesteur. Une installation implique en effet de recevoir les intrants, de les traiter, de stocker ou conduire le gaz, puis de gérer les produits issus du procédé. Le manuel semble particulièrement utile en ce qu'il transforme une idée d'autonomie énergétique en ensemble de décisions techniques situées. Les nombreuses photos et schémas annoncés renforcent cette vocation. Ils permettent de passer de principes généraux à la compréhension d'agencements matériels. L'autoconstruction est ici présentée comme une démarche d'appropriation technique, non comme un simple montage standardisé. Elle demande de comprendre la fonction de chaque élément et les contraintes de son implantation. Cette position distingue l'ouvrage de présentation purement théorique des énergies renouvelables. En revanche, le lecteur doit garder à l'esprit que la réduction des coûts dépend des matériaux, des compétences disponibles, de l'échelle retenue et des exigences de sécurité applicables au projet. Troisièmement, des usages énergétiques diversifiés, du chauffage à la production d'électricité. Le manuel accorde une place importante à la destination du biogaz produit. Celui-ci peut être utilisé pour la cuisson, le chauffage, l'alimentation d'un groupe électrogène et par conséquent la production d'électricité. Cette diversité rappelle qu'un projet de méthanisation ne se juge pas seulement à la quantité de gaz obtenu, il doit être conçu à partir d'un besoin énergétique identifiable. Employer directement le gaz pour une fonction thermique ne pose pas les mêmes questions que l'utiliser pour entraîner un groupe électrogène. Chaque débouché suppose des équipements, une régularité de consommation et une qualité de gaz adaptée. En mettant plusieurs usages en regard, l'ouvrage évite de réduire le biogaz à l'électricité, représentation fréquente des projets énergétiques. Pour une exploitation agricole, la valeur de l'énergie peut aussi résider dans sa proximité avec les besoins quotidiens et dans la possibilité de substituer une partie d'une consommation de combustible ou d'électricité. Le raisonnement proposé paraît donc privilégier l'usage utile local plutôt qu'une vision uniquement fondée sur la production. Cette logique est cohérente avec le thème de l'autonomie énergétique développé par l'auteur. Elle incite à partir des besoins concrets du site, à estimer la capacité réelle de l'installation et à éviter de surdimensionner les ambitions par rapport aux matières disponibles. Quatrièmement, l'épuration du gaz comme étape nécessaire pour l'usage dans un véhicule GNV. L'un des aspects les plus distinctifs du livre est la présentation d'un épurateur de biogaz destiné à permettre son emploi dans un véhicule équipé pour le GNV. Cette application attire l'attention parce qu'elle place la qualité du gaz au centre du projet. Le biogaz brut n'est pas automatiquement interchangeable avec un carburant gazeux destiné à un véhicule. Son utilisation requiert un traitement approprié et incompatibilité avec le système concerné. En signalant cette étape d'épuration, le manuel montre que produire du gaz ne suffit pas. Il faut aussi l'adapter à l'usage visé. Le sujet élargit la réflexion au-delà du digesteur et des besoins stationnaires vers la question de la mobilité énergétique. Il s'agit d'un apport peu courant dans des ouvrages généralistes sur la méthanisation, qui s'arrête souvent à la production ou aux usages thermiques. L'intérêt analytique de cette partie réside dans la chaîne complète qu'elle suggère: matière organique, digestion, récupération du gaz, épuration et usage final. Elle rappelle simultanément que les usages les plus exigeants sont aussi les plus techniques. Un lecteur ne devrait donc pas interpréter cette possibilité comme une solution universelle ou immédiatement transposable. Elle dépend d'un véhicule adapté, d'un dispositif d'épuration fonctionnel et d'une maîtrise technique suffisante. Le livre fournit surtout une piste documentée pour comprendre cette extension possible du biogaz. En dernier lieu, un manuel ancré dans les exploitations agricoles plutôt que dans le microbiogaz domestique. Les descriptions et les retours de lecteurs convergent vers un constat important: l'ouvrage est surtout tourné vers le monde agricole. Ce positionnement est logique au regard du parcours de l'auteur et de la place des matières organiques dans une ferme. Les exploitations peuvent disposer d'effluents d'élevage, de déchets végétaux, d'espaces et de besoins énergétiques suffisamment continus pour donner une cohérence à une installation. Les exemples de réalisations agricoles, avec des éléments relatifs au coût de construction et à la production d'électricité, donnent au livre une dimension concrète appréciable. Ils permettent de situer la méthanisation dans des conditions de travail réelles plutôt que dans un schéma idéal. Cette spécialisation impose cependant une limited lecture. Certains avis indiquent que les systèmes de faible volume destinés aux particuliers sont peu traités et que les volumes évoqués peuvent être importants. Une personne souhaitant uniquement valoriser les déchets alimentaires d'un foyer trouvera donc davantage un cadre de compréhension qu'un plan directement adapté à son échelle. Cette limite ne diminue pas l'intérêt du livre. Elle clarifie son public principal. Le manuel paraît particulièrement pertinent pour les agriculteurs, porteurs de projets ruraux et personnes qui étudient une installation liée à un flux organique et conséquent. Son apport est de rendre visibles les conditions matérielles qui séparent une idée séduisante d'un projet techniquement cohérent. En conclusion, le biogaz manuel pratique s'adresse en priorité aux agriculteurs, aux personnes engagées dans des projets ruraux d'autonomie énergétique et aux lecteurs qui disposent d'un flux régulier de matières organiques. Il peut également intéresser les étudiants, techniciens ou curieux de la méthanisation qui cherchent une entrée concrète, illustrée et orientée vers les choix d'installation plutôt qu'un traité scientifique exhaustif. Son bénéfice principal est de relier les étapes d'une même chaîne: disponibilité des intrants, implantation, autoconstruction, production du gaz, épuration et utilisation finale. Cette continuité aide à comprendre que le biogaz est moins un équipement isolé qu'un système de gestion de matière et d'énergie. Le livre se distingue des introductions générales aux renouvelables par son ancrage matériel et par l'expérience pratique mise en avant par son auteur. Il se distingue aussi de nombreux guides centrés sur le chauffage ou l'électricité grâce à l'attention donnée à l'épuration du gaz et à son usage possible dans un véhicule compatible GNV. Sa limite est nette mais utile à connaître. Sa focale agricole le rend moins directement adapté aux installations domestiques miniatures. Pour le lectorat concerné, cette spécialisation constitue précisément son intérêt. L'ouvrage fournit un cadre réaliste pour examiner la faisabilité d'un projet, identifier les ressources nécessaires et mesurer les exigences techniques avant de s'engager dans une autoconstruction. Si vous souhaitez soutenir Jean-Philippe Valla, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.